Martel et Yannick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
100, 2, 1.
Pile poil midi, Denis Gravel qui est en studio, Pascal CV qui est là pour nous assister. Je suis content que tu sois là, mon ami.
Salut, man.
Ouais, j'ai eu peur un matin, je suis arrivé, j'ai vu des pompiers, je me dis, bon, qui c'est qui s'est planté? C'était-tu Pascal? Non, c'était pas Pascal. C'était-tu Audrey? Non, c'était pas Audrey.
J'aime ça qu'Audrey vienne avant, en tant que
Denis. Non, mais je veux dire, quand tu vois un accident comme ça, puis on va expliquer aux auditeurs qu'est-ce qui s'est passé, puis de quelle façon nous, on a vu la situation. Quand tu vois un accident comme ça, tu penses toujours à tes proches. Hein?
Ben, c'est sûr.
Surtout qu'ici, il y a une bonne proportion de gens qui nous sont proches, là, ouais. de ceux qui stationnent.
C'est une quarantaine de personnes.
C'est un étage complet, là.
Exact.
Puis le deuxième réflexe, ben, c'est de penser à la garderie qui est au rez-de-chaussée. Okay. Voilà. Évidemment, c'est une voiture qui est rentrée dans le mur.
À tous les matins où on passe pour aller travailler, il y a des bambins qui nous font des bebelles dans la rue, dans la vitrine.
Ils pleurent, ils font des bebelles ou est-ce que le nez qui nous croit donné?
Ils sont à peu près une quarantaine. Nous, on voit la pouponnière. C'est les plus jeunes qu'on voit parce que les plus vieux sont derrière. C'est ce que Audrey m'expliquait tantôt. Puis à cet endroit-là précis, il y a une dame qui se serait trompée de pédale, Denis. Selon le policier, là, elle n'a pas été blessée. Puis heureusement, il n'y a personne qui a été blessé. Elle s'est trompée de pédale, mais elle aurait pu tuer des enfants.
Écoute, j'ai tenté de reconstituer la scène de l'accident en
c'est
bas.
Impossible.
Puis j'essayais de comprendre comment ce qu'elle a fait pour s'enligner de même. Puis la seule théorie que j'ai réussi à avoir, c'est oui... Elle pensait peser sur le break, puis elle pesait sur le gaz. Puis quand tu pèses sur le gaz, puis que ça avance, puis que tu penses que tu es sur le break, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le pied dans le fond. Et l'autre réflexe qu'elle a eu, probablement, c'est de virer sec le volant pour se retrouver quasiment parallèle avec le poteau, avec le mur, puis tout ça. Et il y a un rond-point devant la scène où c'est arrivé, ce qui fait en sorte que cette pauvre vieille dame... A été le centre de l'attention pendant à peu près une heure. Elle est assise côté passager de sa voiture qui est dans le mur. Puis tout le monde arrête dans le rond-point pour prendre des photos, pour filmer avec un cellulaire. C'est le walk of shame.
Pourquoi ils l'ont laissé? Moi, c'est la première question. Ouais. C'est un, extrêmement gênant. Deux, personne qu'on prend en scène. Même avec tes explications, je suis pas sûr.
Moi non plus.
Je cherche encore dans quel angle on peut s'être logé entre une colonne et un mur dans une histoire de demi-cercle. T'sais, c'est épouvantable.
Mais à partir du moment où tu peux plus reculer le char, tu peux plus rien faire dans le char, il me semble qu'elle aurait dû aller prendre un café et attendre que ça se passe.
Aller dans la voiture, dénoliser des policiers qui étaient là.
Pauvre madame, pendant une heure, tous ceux qui passaient ralentissaient, prenaient des photos, filmaient.
Tu la manquais pas, était toute bien mise avec un beau rouge à lèvres rouge pétant.
Puis il y en a qui faisaient des jokes forts, là, veux pas. Hey, tabarnouche, elle l'a donc bien échappé. Elle a la madame qui l'a échappé.
Avec la fenêtre fracassée, puis les enfants en arrière.
Ces accidents-là, on ramène tout le temps ça vers nous, là. T'es un parent, toi, qui va porter ton enfant-là à chaque matin. Demain, tu fais quoi?
Mon Dieu, hein, je le sais pas. Ça, je suis très père poule. Hein? J'aurais tendance à... Écoute, qu'est-ce que je ferais? Déjà, je me parque loin, moi.
Ouais.
Je me parque loin du monde, justement, pour éviter les accidents, éviter les empilades de chars.
C'est surtout pour éviter le monde aussi.
Qui attendent un et l'autre. Oui, c'est une bonne théorie.
Pour éviter les empilades de chars qui attendent un et l'autre. Tu sais quoi, cette excuse-là pour dire qu'il est juste sauvage?
Moi, les bonhommes qui débarquent les bonnes femmes puis qui font un fil pendant 15 minutes en avant d'un Walmart, alors que si tu parques ton Christy de char... 10 mètres plus loin, tu feras les 22 pas, tu perdras peut-être 0.5 livres, mais tabarnane, peux-tu te tasser du chemin? Ça me rend fou!
Ça, tu t'attaches en avant, même pendant que l'autre fait l'épicerie pendant une demi-heure, là, qui attendent.
Mais c'est ça, je pensais à moi en tant que parent qui va porter là mes enfants chaque matin, puis là, je vois le véhicule qui est planté de main, je me dis, OK, c'est chose possible qu'il y a un char qui rentre dans la vitrine. Je pense aux éducatrices en dedans qui ont dû avoir la peur de leur vie.
Dis-toi.
Les enfants, pour eux, je suis pas sûr qu'ils ont eu peur, là, mais ils doivent dire, hey, on a eu un beau spectacle.
Je sais pas, ils doivent t'avoir braillé un peu.
Mais
là.
Les éducatrices, ça doit être traumatisant.
Ça rappelle Longueuil, c'était pas Longueuil, là, le monsieur qui avait choisi, par exemple.
Ouais,
moi, c'est à ça que j'ai pensé.
De façon délibérée.
Aussi,
mais...
hey, du coup, tu te demandes si c'est pas quelqu'un qui a choisi de faire un acte irréparable.
Puis, tu sais, en tant qu'adulte, ben, on a des enfants qui sont influencés par nos réactions. Tu sais, s'il y a des éducatrices qui sont traumatisées, il faut qu'ils gardent ça. Pour eux autres.
Oui.
Parce que le but, en tout cas, je pense, c'est de dédramatiser le plus vite possible puis de dire, ben c'est pour ça qu'il faut être prudent. C'est pour ça qu'il faut regarder autour de nous autres. Mais si on se met à faire de l'angoisse...
La grosse panique.
Il faut garder ça pour une fois que les enfants sont couchés puis que nous autres, on fait des nuits blanches.
Exact.
Là,
en jasant...
As-tu déjà vécu ça?
Oui, absolument.
En jasant avec le policier en bas qui nous connaissait, d'ailleurs, je le salue s'il nous écoute, il m'a dit que j'allais me faire sacrer une volée à NSPW. Mais,
une bonne police.
Il va-tu venir?
Il me dit « Salut Marceau, salut, bonjour, comment allez-vous? » On se serre la main et tout ça. Puis là, je dis « Bon, qu'est-ce qui s'est passé? » Il dit « Techniquement, le véhicule se sera emballé. D'après moi, après enquête, ça va être assez trompé de pédale. »
Ouais, c'est tout le temps ça. Hein.
Ça arrive souvent. Puis, tu sais, on a tellement vu ça passer souvent dans l'actualité. Des gens qui sont plus en mesure de conduire, mais on leur laisse quand même le permis de conduire parce que sinon... on risque de les perdre, c'est leur autonomie.
Tu m'as quasiment ému un peu plus tôt ce matin quand tu parlais de ça avec Audrey, puis tu disais, moi, enlevez-moi pas mon permis quand je vais être vieux, c'est tout ce qui va me rester.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de ça. Mm-hmm. Puis c'est peut-être ridicule de bâtir une dignité humaine sur un permis de conduire, mais j'imagine que pour quelqu'un qui sent que ses capacités physiques et mentales sont sur la pente descendante, l'étape de se faire dire par des gens qui te maternent, qui veulent ton bien... Mais toi, t'es supposé d'être l'homme, t'es supposé d'être le pourvoyeur, t'es supposé d'être la personne d'expérience, puis tu te fais dire par tes enfants, « Papa, ce serait peut-être le temps qu'on se parle, parce qu'on t'a vu l'autre fois là, dans le stationnement du Walmart, là. Puis je pense que ce serait le temps que tu renonces à ton permis de conduire. » Il y en a beaucoup qui sont pas capables d'accepter cette étape-là.
Mon grand-père, ça a été dur. Ça a été extrêmement... émotif ce moment-là parce que...
Il a fallu que vous interveniez pour lui enlever son permis de conduire?
C'était tout le temps la personne qui nous dépannait puis qui venait nous chercher puis tout. Puis à un moment donné,
utile.
Ça faisait toute la différence dans sa vie. Puis pour lui, son bonheur, c'était d'aller au chalet. D'aller voir, tu sais, s'occuper des érables qui coulaient. C'était son havre de paix. Ben, il avait perdu ma grand-mère. Tu sais, c'était beaucoup de choses.
C'est comme dire à un monsieur, pour toutes les belles décennies que tu nous as données, là, on prend ta carte d'autonomie puis on te la retire.
Puis on te laisse à la maison. Ouais. Parce que c'est ça, nous, pendant ce temps-là, on travaille. Pour tous les livres qu'ils nous ont donnés, on ne pouvait pas le faire. Mais on voyait que c'était peut-être un petit peu plus mêlé comme conduite. Mais pas assez vite sur l'autoroute, ça peut créer des accidents. Je me souviendrai toujours... c'est 5 jours avant qu'il décède. Là. Il s'en vient souper, parce qu'il est décédé subitement, pas d'une maladie. Puis il arrive chez nous, j'avais fait un souper de famille, puis on voulait le célébrer. Puis il est fier de dire qu'il vient de renouveler son permis. Mais je me rappelle...
Le malaise.
J'en ai tellement vécu un. Puis on l'a partagé avec la famille en se disant, pourtant, on allait là.
Lui, il est fier, puis nous autres, on est comme toutes mal à l'aise par rapport au fait qu'il ait réussi.
C'est ça, puis on se questionnait savoir si on n'allait pas passer d'une autre manière. Ou...
C'est peut-être l'âge qu'on a, puis j'invite les auditeurs à communiquer avec nous, 418-971-1021, mais tu sais, il y a des gens qui nous écoutent présentement, ils ont 20 ans. Toi, t'es dans trentaine, début trentaine, c'est ça?
30. Donne-moi pas plus.
C'est le début trentaine,
techniquement. Nous autres, on est dans quarantaine, et des auditeurs de 50, 60 ans, puis c'est rationnel de dire, ben écoute, quand je serai plus capable de conduire, enlevez-moi mon permis. Mais quand on va avoir 85, 90, et que les enfants vont quitter la maison, puis qu'ils vont venir nous visiter à Noël ou quand ça va être leur fête pour avoir les cadeaux et
pas
tout
si
ça.
C'est simple.
Moi, là, mon permis de conduire, c'est la seule chose qui me permet de sociabiliser puis de m'occuper de moi.
Sortir de la maison.
Exact.
Tu sais, je reviens au chalet. C'était la seule chose qui le rendait heureux foncièrement dans les dernières années de sa vie.
Là, il faut que tu demandes un lift si tu veux y aller.
Hey, à 1h45.
Exact.
C'était fini pour le chalet.
C'est ça. Fait que les médecins en Beauce sont confrontés avec ce phénomène-là parce qu'il y a des gars qui vivent d'un rang tout seul depuis des 10 ans, 20 ans. Leurs femmes sont décédées, les enfants sont partis de la maison. Ils ont des beaux gros terrains, il leur reste un char. Ils vont voir leur chum. Médecin, là, quand il regarde le gars, il dit « Au niveau cognitif, ça va plus. Il a encore son permis de conduire. Qu'est-ce que je fais? Si j'y enlève son permis de conduire, c'est fini pour lui. »
Hey, puis l'épicerie, puis tout, là. Quelqu'un qui est somme toute autonome dans certaines tâches, mais on lui enlève son permis, puis qui ne peut plus subvenir à ses besoins principaux quand justement tu as été pourvoyeur de ta... Tu sais, peu importe, là.
Bien, puis c'est sûr que tout s'est simplifié autour de nous autres, là. Les épiceries maintenant livrent. La bouffe aussi. Il y a un paquet de choses. Mais... Les changements, puis je reviens à l'histoire du pourvoyeur, tu sais, c'est la mentalité d'une génération. Puis dans cette mentalité de génération-là, justement, tu t'en vas faire l'épicerie, t'en vas t'occuper, tu t'occupes de tes affaires, ton terrain, ton bois de chauffage, tes affaires-là. Pis...
Ça te rend heureux, un certain sentiment d'accomplissement.
Oui, puis moi, je veux pas être le médecin qui est en avant d'un monsieur comme ça, qui est rendu complètement tout seul et isolé. Puis la décision mathématique, la décision de tête, c'est de lui retirer son permis de conduire. mais on demande à l'humain de faire preuve d'humainerie des fois puis d'avoir du cœur. J'aurais de la misère à pas en avoir, mais si la semaine d'après, il rentre d'une fenêtre de garderie parce qu'il a fait une erreur cognitive, puis que moi, j'aurais dû y enlever son permis de conduire.
Pour les autres et pour lui-même.
Encore une fois, je suis reparti pour des nuits d'angoisse.
Mais tu sais, je me demande aussi, il y a sûrement des chicanes de famille. Là. Nous, on s'est pas rendu à l'étape de bypasser une personne, de bypasser une décision de la SAQ. On n'a pas eu, tu sais, on a la chance en parenthèse parce qu'il est décédé, vous comprenez ce que je veux dire. Mais d'après moi, il y a des chicanes de c'est famille. Sûr. Fait que si en plus, ça vient diviser la famille, cette personne-là est rendue seule, écoute, là, ça a beaucoup plus d'impact, là.
Oui, puis le médecin, lui, il doit se dire, OK, là, il faut que j'y retire son permis parce que ça, il peut être dangereux pour les autres sur la route. Ça doit être cruel des fois, mais le médecin, regarde, c'est le professionnel qui est supposé prendre cette décision-là. Mais oui, il y a des gens qui chicanent. Puis tu sais, je vais te ramener à la pandémie, Denis. À un moment donné, moi, ma job à la pandémie, je faisais du bénévolat pour les châteaux Bellevue. Je sais pas si tu connais, là.
Ouais.
Bellevue, c'est ça?
Oui.
Château Bellevue. Puis là, moi, j'étais à la porte. Puis là, ils disent, faut que vous empêchiez les familles de rentrer à l'intérieur des résidences. Puis là, en jasant avec les familles, je leur disais, bien, vous ne pouvez pas rentrer. Elle dit, mais pourquoi on ne peut pas rentrer? Bien, parce que le virus, il ne faut pas qu'il rentre à l'intérieur de la résidence. Puis là, les gens me disaient, mais oui, mais qu'est-ce qui me prouve que toi, tu l'as pas, la COVID? Puis là, dans ma tête, je disais, très bon point, mais j'ai pas le droit de te le montrer que c'est un bon point que tu viens d'avoir.
Puis en même temps, les décisions, c'est pas toi qui les as prises.
Oui, c'est ça.
Ils ont été pris. Dans le fond, tu as vécu ce que des commis d'épicerie ont vécu aussi de façon très injuste.
Fait que là, ils me donnaient le stock. Là, je m'arrangeais pour que le stock se rende à l'appartement de leurs parents et tout ça, blablabla. Bla, bla. Et tout d'un coup, il y a une dame qui s'est pointée devant moi, Denis. Puis c'est là où je voulais en venir avec mon point. Elle m'a engueulé comme si j'étais le François Legault. Okay? Comme si c'était moi, François Legault. Puis elle avait dit, vous n'avez pas le droit de faire ça à nos parents, de nous empêcher de voir nos familles. Je dis, madame, vous avez tellement raison. J'ai pas le droit de vous empêcher de voir vos familles. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est à partir de maintenant, prendre votre mère qui est à l'intérieur, qui est encore autonome, puis l'amener chez vous.
Et vous en occuper.
Quelle réponse. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle l'a-tu fait?
Le ton a baissé.
Ah, OK.
Mettons qu'elle était sur 100, elle était à 95 quand elle me parlait, puis elle me prenait pour François Legault. Là. Elle a descendu à 30. Puis après ça, elle a juste quitté bien fâchée sans me dire que mon point il était bon en sacrifice.
C'est sûr qu'elle y a pensé. Elle a fait une nuit blanche.
dans une famille, il y en a qui vont dire OK, ouais, c'est bon, on va enlever le permis à papa. Parfait. Qui va s'occuper de papa à tous les jours?
Les commissions.
Les commissions.
Puis là, on frôle un problème qui s'en vient aussi. Le nombre de têtes blanches va augmenter par rapport au nombre de têtes pas blanches. Des places qui sont capables de s'occuper de personnes âgées qui perdent leurs fonctions, on va en manquer sous peu, là, comme on manque de professeurs dans les écoles. Et une alternative qu'on va nous proposer et qu'on va peut-être même essayer de subventionner d'une façon ou d'une autre et d'encourager, ça va être de garder nos vieux à maison, comme ils font dans d'autres pays, traditionnellement, culturellement. Nous autres, on va nous dire par souci d'économie et de bienveillance combien va le faire dans une société rendue égoïste comme la nôtre.
Incroyable.
Accepteriez-vous d'accueillir vos parents dans votre maison présentement?
Ceux qui vous ont changé couche, voudriez-vous changer les leurs?
Alors que, normalement, ça devrait être juste un juste retour des choses. Mais
en
c'est
fait,
pas comme ça que notre société...
Oui, ces absolument. Gens-là, encore plus qu'on le fait. T'sais, puis tout ce qui est culture, tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est sagesse, est un transfert incroyable qui se perd. Puis je trouve qu'on voit les dommages collatéraux en société sur les valeurs, sur le système D, on en parle à chaque jour.
Encore là, je vois ça avec les yeux de gars dans 40. Peut-être que je changerai d'idée plus tard, mais la dernière affaire que je veux, c'est que mes gars soient obligés de s'occuper de moi.
Mais écoute, mes parents personnels me disent ça, tu comprends? C'est comme, c'est pas... Puis il y a plein d'histoires touchantes qu'on pourrait avoir là-dedans, mais il y en a un de nos auditeurs...
À partir du moment où je vois chier dans mes culottes, c'est l'aide médicale à moi.
Mais là, c'est peut-être un peu tôt, là.
Ou l'aide médicale à ramasser ce que tu vas chier dans tes culottes, mais qui vient pas nécessairement de tes enfants.
On aura peut-être inventé des robots à ce moment-là. L'intelligence artificielle va peut-être te changer la couche, là. Mais je te jure, ça sera pas moi, si jamais. Il y a des auditeurs qui nous écrivent, puis je me souviens, il y en a un qui a vécu cette situation-là. Son père s'est vu retirer son permis. Il a même décidé de remettre son permis avec collaboration. Puis il dit, maintenant, c'est moi qui fais les commissions à chaque semaine. C'est lui qui s'en occupe. Des fois, il nous quitte sur Twitch, puis il nous dit, je m'en vais m'occuper de mon père, puis il revient, mettons, une heure plus tard. Mais...
C'est sûr qu'à partir du moment où tu sensibilises une personne âgée que t'aimes à perdre son privilège de conduire, c'est sûr que ça t'amène des engagements. Tu sais, tu peux pas dire OK, on t'enlève ton permis, t'es dangereux, puis après ça, arrange-toi.
Exact.
Ça vient avec l'autre côté de la médaille, puis bravo à cet auditeur-là. T'sais, à un moment donné, faut être conséquent, puis faut être logique. Et ces personnes-là, bien, effectivement, ils nous ont changé nos couches à un certain moment donné. Moi, j'ai des parents qui m'ont aidé jusqu'à tout récemment dans ma vie de tous les jours ou à peu près. C'est sûr que j'ai une dette éternelle.
Le,
puis à un moment donné,
feras-tu si nécessaire?
Ben,
je
me donnerai vraisemblablement pas le choix de trouver une solution. Je veux dire, ils ont été là à toutes les étapes de ma vie, à chaque fois que j'en ai eu besoin, que mes enfants en ont eu besoin. C'est un juste retour d'ascenseur. Mais ça doit être difficile. Vieillir, on s'en fout, là, dans la trentaine, dans la vingtaine. Mais je pense que mi-quarantaine, ça commence à nous pogner d'un flanc, là. Quand on en voit tomber de notre âge, qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé, merci, bye, en dedans d'un an, c'est terminé, qu'on sent certaines choses. Oh, un lendemain de brosse, c'est pas ce que c'était à 22. Hein? On traîne ça sur 4 jours. Fait que, hein, on
se
tranquillise.
Des entraînements qui te rendent raqués le lendemain plus qu'auparavant.
Oui, tout ça. Fait que la peur de vieillir, la peur justement de passer par une étape comme celle-là, de te faire dire par ta famille qui veut ton bien, papa, faut que tu arrêtes de conduire. Moi, j'ai réglé ça en passant. Je vais vivre en plein cœur de Québec. Je vais prendre le tramway. Je vais dire, c'est fini.
Ah, t'es, oui.
Je vais régler le problème de lui-même.
Seras-tu vivant lorsqu'il sera construit, là, est la question.
Je vais essayer de me promener avec mes pieds.
Ça va être un petit condo à Québec. Puis, on marche.
Sans entretien.
J'ai comme deux visions qui vont complètement à l'opposé l'une de l'autre de ça va être quoi mes vieux jours. Il y en a une que c'est dans le bois. Puis en même temps, le bois, je suis pas assez débrouillard. J'aime le bois, j'aime la forêt, j'aime la tranquillité.
Tu vas mourir mangé par un loup. Jours plus tard.
Probablement, ou par un écureuil. Là, je me rends même pas au loup. Je vais probablement plus finir en ville. T'sais, ma blonde aimerait ça, peut-être à un moment donné, avoir un petit pub, un petit bar. Puis,
tu vas être celui au comptoir à chaque jour.
Oui, oui. Je vais
avec
être...
ta pince et ton petit clamato.
Oui, je vais avoir mon banc avec mon nom gravé.
Épouvantable, ton bac accroché en haut.
Oui, puis je vais être le seul qui va avoir le droit de fumer le cigare à l'intérieur. Je vais être le vieux désagréable
du
coin.
Si chez nous, ici, ben, c'est ma blonde.
C'est ma blonde qui va me sortir de son bar. Ça va être le fun.
Hey, sujet peut-être un peu plus...
c'était sérieux, ça a juste mal viré.
Ouais. ça arrive souvent.
D'actualité, je ne sais pas si tu as vu l'article que je vous ai envoyé ce matin. C'est un article de David Descoteaux que j'aime bien, qui est un gars de la droite économique, de la méchante droite économique, qui fait des papiers dans le Journal de Québec et il parle de l'Union des consommateurs qui ont produit un rapport et qui mentionne qu'il y aura un choc tarifaire en vue. La facture d'Hydro-Québec pourrait doubler dans quelques années. Dès 2028, on pourrait subir des hausses de 5,6 à 9 %. Je veux dire, ça commence à être... cher l'électricité au Québec, malgré le fait qu'on nous dit non, on a des tarifs préférentiels au Québec, on est vraiment gâtés. Puis dans quelques années, on nous dit que d'ici 10 ans, ça pourrait être même le double qu'on paye. Fait que si tu payais, Pascal, 200 $ d'électricité par mois, ben dans 10 ans, tu vas probablement en payer 400 par
Super.
Mois.
Super, j'ai hâte, avec la famille, tout ça. Là.
Tu sens-tu que tout est patenté pareil? Tu sais, le tout électrique pour ce qui est des véhicules, 2035, on veut absolument que tout le monde ait des véhicules électriques.
Mais on entend que Ching, c'est sûr.
À un moment donné, il va falloir...
une situation où on épargnait pour virer une situation financière et agréablement économique
mais
pour le gouvernement.
Mais le pourcentage que les gouvernements percevaient sur chaque litre d'essence, il va falloir le prendre ailleurs.
Ben oui.
Puis ça va être l'électricité qui va compenser. Puis en plus de ça, ça va être la fameuse taxe kilométrique. Et ça a été mentionné aujourd'hui par le très célèbre ministre et très aimé Pierre Fitzgibbon.
J'ai lu le texte que tu nous envoyé ce matin, puis on a comme créé un problème, puis c'est tellement nous autres pelletés par en avant. Hein? On fait des belles promesses puis des beaux engagements. Hein? Les tarifs d'hydroélectricité, les tarifs d'électricité, ils ne monteront pas plus que l'inflation à chaque année. Mais pendant ce temps-là, on veut augmenter la production à vitesse grand V. Pendant ce temps-là, on paye peut-être pas le prix qu'on devrait payer pour de l'électricité. Puis à un moment donné, le mur va arriver, puis quand on va être en avant du mur, bien là, on va dire au monde, OK, vous vous êtes pas habitué, vous avez pas changé votre consommation d'électricité, puis bang, d'un coup sec, la facture va doubler, alors qu'on aurait peut-être dû faire ça graduellement, préparer les gens tranquillement peut-être à des changements d'habitude. Puis on le sait, s'ils ne prennent pas là, ils vont le prendre ailleurs. Si ce n'est pas la facture d'hydro, ça va être une taxe qu'ils vont rajouter, une taxe qu'ils vont augmenter, ils le font déjà. Le problème là-dedans, c'est qu'au lieu de nous gérer comme des adultes, puis peut-être de nous expliquer avec un tableau bien simple, ça, c'est le prix qu'on paye notre électricité ici parce qu'on l'a nationalisé. Ça, c'est le prix qu'on la vend aux États-Unis. Ça, c'est l'économie que tu fais. Maintenant, tu fais une économie, mais il faut quand même qu'on monte ton bill. Parce que là, de l'électricité, vous en consommez trop parce que vous pensez que ça coûte rien. Fait que là, il faut changer les habitudes tranquillement. Tu sais, au lieu de tout le temps, ah non, tout est beau, tout est correct, ah oui, on suit l'inflation, puis là, boum, en 2028, tu pognes le mur, il n'y a plus de promesses, puis tu vas doubler la facture en dedans d'un claquement de doigts, puis tout le monde va paniquer.
Puis on a fait tout ce qu'on pouvait, on a fait le meilleur qu'on pouvait.
Regarde comment tout est pensé. Fitzgibbon a dit, pour les deux prochaines années, donc jusqu'en 2026, on va être limité à 3 % d'augmentation.
Oui.
Prochaines élections fédérales, la provinciale, c'est quand?
C'est dans 2 ans.
C'est dans, au mois d'octobre 2026. Tout est patenté.
Ce qui tue le plus le Québec dans lequel on vit, c'est de gérer aux 4 ans. Quand un gouvernement sait qu'il perd la prochaine, il pèle la marde. Regarde, hey, c'est le PQ le prochain. Quand vous allez ouvrir la porte, vous allez voir qu'on n'a pas fait le ménage avant de partir, puis on est craqué, notre caca, c'est mûr.
Puis on va revenir 4 ans plus tard.
Ben oui.
Parce que vous allez tellement avoir détesté le prochain. Mais il y a de quoi là-dedans. Moi, je suis quand même réconfortée de voir qu'il y a une simili-stratégie réfléchie, qu'elle soit mauvaise ou bonne, il y a quelqu'un qui a réfléchi à quelque part, contrairement à ce qu'on a vu dans d'autres dossiers. Le hic est le problème principal. C'est, ça expose, en premier lieu, toute l'hypocrisie.
Ben oui.
Toute l'hypocrisie en arrière. Puis, encore une fois, est-ce que je répète, puis je suis désolée d'en venir à ce constat-là de plus en plus, il y a vraiment une question de nous prendre pour des abrutis. Puis on continue dans cette gestion-là. Puis à ce moment-là, quand c'est tellement évident, je me demande, c'est qui l'abruti? Celui qui reçoit le message ou celui qui le
puis
donne?
On tombe dans des spirales sans fin aussi à gérer aux 4 ans. Puis on parlait des travaux hier, des travaux qu'il y a à Lévis, des travaux qu'il y a à Québec, puis un peu partout. Pourquoi on est tout le temps en train de travailler? Bien, parce qu'on se paye des travaux qui vont durer 4 ans. On ne se paye pas des travaux qui vont durer 8 ans ou 10 ans. Ça coûte moins cher. Ça passe mieux sa facture. Mais ils repartent avec les bulldozers, puis l'été d'après, ils reviennent avec les bulldozers à même place, puis ils recommencent.
On fait travailler notre monde.
Oui, c'est super pour l'industrie de la construction. Nous autres, je suis moins sûr.
Je me souviens, il y a de ça quelques années, François Legault s'était pointé dans une station de radio, puis on lui avait parlé de la politique du plus bas soumissionnaire.
Oui.
Surtout pour ce qui est de la construction de nos routes, puis même pour ce qui est de nos infrastructures. Puis on avait signifié à François Legault que comme nos infrastructures semblaient être moins solide que les autres infrastructures ailleurs, il faudrait peut-être revoir la loi du plus bas soumissionnaire. Et il avait dit, effectivement, j'avais confié cette tâche-là à François Bonnardel, qui était à l'époque ministre du Transport. On n'a jamais entendu parler, mais ça, cette loi du plus bas soumissionnaire nous nuit comme t'as pas aidé. Aux États-Unis, dans certains districts, là, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, ils vont faire un appel d'offres, il y a 20 entreprises qui vont dire, nous autres, on va te charger tant pour le projet que t'as. Ils vont prendre les trois du milieu, ils vont retourner en appel d'offres, puis là, ils vont tomber sur une entreprise qui va avoir un prix qui est juste pour tout le monde. Parce que le gars qui gagne son appel d'offres plus bas soumissionnaire, c'est un entrepreneur. Lui, là, il veut pas perdre d'argent. Fait que c'est sûr qu'il va essayer de couper au maximum pour avoir un certain profit en bout de ligne.
Puis c'est tellement simple à comprendre si on prend le temps de nous l'expliquer parce qu'on fait ça dans nos vies de tous les jours.
Mais non, on nous prend pour des abrutis.
Les affaires qui sont importantes pour nous autres, quelles que soient les affaires qui sont... C'est peut-être ton char, toi, qui est super important.
Ben, j'ai amené mes enfants avant, là.
Si tu veux, si tu insistes. Mais mettons que pour toi, pour l'exemple, mettons que pour toi, ton char, c'est ta vie puis c'est ça qui est important. Tu vas être appelé à investir un petit peu plus dans une voiture. Moi, un char, c'est pour me déplacer du point A au point B. Trouve-moi le moins cher que je suis capable de rentrer dedans avec une poche de hockey, puis je vais être correct pour moi. C'est pas une priorité. Un gouvernement est capable de nous expliquer les choses comme ça. Si ta priorité, c'est de faire des routes qui durent, explique-nous pourquoi la politique du plus bas soumissionnaire, c'est pas ça que tu fais. C'est important, toi, que ton ketchup, il goûte le Heinz. Quand la marque maison est en spécial, tu l'achètes pas. Pourquoi? Parce que ton ketchup, tu veux qu'il goûte le Heinz. Fait que t'achètes le Heinz, même s'il est plus cher. C'est la même chose qu'un gouvernement doit faire avec ce qu'il choisit comme priorité.
Merci pour la passe à palette. T'sais, tu joues au hockey, tu as bien joué. Ce que j'ai dit tantôt par rapport à l'abrutissement, là, c'est là où je me pose la question. Eux, ils nous prennent pour des abrutis en manquant de transparence, puis en nous exposant pas bien les affaires parce qu'ils se disent qu'ils comprendront pas.
C'est ça.
C'est qui l'abruti au final? C'est celui qui reçoit le message ou celui qui est pas capable de le passer? Puis là, c'est ce qui m'inquiète en politique en ce moment.
On a la politique qu'on mérite, c'est ça que tu dis.
Ben, ça fait mal!
Mais C'est pas faux. Si on arrête de se comporter comme des enfants, peut-être qu'on va commencer à se faire parler comme des adultes.
Est-ce qu'on a élu aussi les meilleurs prospects? Est-ce qu'on les traite d'une manière où ils seront capables de ne pas nous prendre pour des abrutis par la suite parce qu'on va avoir mis des gens intelligents au pouvoir en passant par-dessus la politique spectacle?
Est-ce qu'on envoie nos meilleurs?
Ce ne sont que des hypothèses d'une pauvre femme.
Veux-tu qu'on extrapole? On envoie-tu nos meilleurs en politique? Pourquoi ce n'est pas nos meilleurs qui vont en politique? Faut-tu augmenter le salaire et les conditions de vie des politiciens pour avoir les meilleurs
là-dessus?
De notre société? Regarde, hey, finalement, on embrase la marde dans le pit stop.
Hein? Exact. Exact. On revient aux couches.
On revient demain, les amis. Merci beaucoup, Denis, pour le pit stop.
Salut.
Le pit stop.